you racing or watching?
La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Cette émission est préparée par Aïssan Toundoy, Jean-Christophe Brianchon, Boris Pino et Grégoire Di Fiore. La prise de son est assurée par Nicolas Slimani, la réalisation signée Daniel Fino. Autour de moi ce soir, Corinne Rondeau, Harry Bellé, Florian Guettet. À notre affiche, une émission spéciale tout entière consacrée à la 14e Biennale d'art contemporain de Lyon qui a pour intitulé « Monde flottant » qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Présente également ce soir, Aïssa Toundoy qui va surveiller le fil Twitter Dispute FC pour donner à entendre vos commentaires. Ça dit, il faut vraiment être rapide puisque la Biennale a ouvert aujourd'hui. Mais enfin, si vous l'avez visité, cette grande Biennale, n'hésitez pas à réagir. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des places de cinéma pour le film Gauguin, voyage de Tahiti d'Edouard Deluc, qui est sorti aujourd'hui dans les salles. Alors, une dispute d'autant plus spéciale que les visites de presse ont eu lieu à Lyon mardi et mercredi, que je n'ai pas pu m'y rendre. Dispute quotidienne oblige. Je regrette de ne pas avoir fait partie de la petite colonie. Vous m'avez envoyé des photos qui valaient carte postale et je vous en remercie. Je vais donc découvrir en même temps que nos auditrices et auditeurs vos impressions, commentaires, analyses, remarques sur cette 14e édition. Ce que je sais, c'est que Thierry Raspail est toujours le directeur artistique de la Biennale et qu'Emma Lavigne est la commissaire invitée de cette édition. J'ai également lu la longue liste des artistes invités, beaucoup de très connus, certains un peu moins, d'autres peu, des morts et des vivants, des femmes, un petit tiers, et des hommes venus de tous les horizons. D'abord, un premier tour de table, si vous le voulez bien, sur cette notion de monde flottant pour cette biennale qui se présente, selon Thierry Raspail, comme un nouveau volet de la quête du moderne. Mais encore, comment est-ce que vous avez compris, vous, ce projet, cette thématique? Comment faut-il l'entendre? Toujours presque antinomique d'intituler ou de donner un axe comme ça à une biennale d'art contemporain. Les biennales, elles sont faites pour donner un panorama. Donner un axe à ce panorama, c'est toujours un peu compliqué. Alors moi qui n'ai donc rien vu, sauf beaucoup, beaucoup de photos sur Twitter, sur Instagram et autres. Florian Guettet, comment est-ce que vous avez compris, vous, cette notion de monde flottant, nouvelle quête de la modernité ?
Ma thématique a plusieurs entrées, évidemment, même si je trouve qu'il faut quand même du courage pour assumer cette dénomination de monde flottant dans un événement artistique qui prend lui-même le risque de son inconsistance.
Je croyais qu'il prend l'eau, mais
pas très loin parfois. Moi, en fait, je me suis posé vraiment la question de savoir ce que je pouvais attendre aujourd'hui d'une biennale. Et dans ce cas-là, de faire un peu le comparatif avec ce qu'on nous propose en ce moment. Et par rapport à la Documenta qui a un peu noyé le propos plastique dans une critique politique et qui se rêve un peu soit en révolution, soit en discours philosophique. On a une contre-proposition à la Biennale, avec la Biennale, qui serait une sorte de réinvestissement du formel, de l'esthétique, qui prend le parti finalement de ne pas ancrer son propos dans la réalité. Déjà, monde flottant, c'est déjà ce refus de l'ancrage-là. Le problème, c'est qu'à force de ne pas être ancré, il y a une forme de déconnexion entre le sens et la fonction critique. Alors, c'est pas que je sois convaincu que tout l'art doit nécessairement être engagé militant, bien loin de là. Mais il me semble quand même que quand on refuse cette dureté du réel au profit de mondes flottants au pluriel qui seraient des possibles, en psychanalyse, on appelle ça le déni ou le refoulement. Et je suis vraiment pas sûr que aujourd'hui l'art doive assumer forcément une fonction de refoulement. Ça m'agace d'autant plus qu'il y a quand même une forme d'urgence, et je pense dans le monde qu'on vit, et que cette exposition ou cette biennale, cet événement qui a choisi de contourner l'urgence, n'a pas fait forcément le meilleur choix de ce point de vue-là.
Bien. Corinne Rondeau, sur cette intitulée, cette thématique, cette impression générale.
Alors il faut l'entendre comme une décision de Thierry Raspail de décliner sur trois volets ce mot de modernité. En même temps, dans le catalogue, si vous l'avez eu, vous aurez vu qu'il y a marqué moderne.
Moderne, oui, oui, c'est pour ça que j'ai dit moderne, et pas modernité.
Oui, moderne. Alors,
la quête du moderne.
Oui, mais bon, c'est quand même extrêmement compliqué.
C'est bien pour ça que je vous pose la question.
Je peux toujours finalement me demander ce que c'est que le la modernité. Je veux dire, on va dire que c'est le moment où on a des discours sur l'art qui ont décidé ce qui était de l'art et ce qui n'en était pas. Voilà. Grosso modo, à partir de Diderot, même,
ça
on peut
tient.
Dire ça.
Oui, c'est vrai.
Et Baudelaire, bon, voilà. Oui. Et puis, on peut aussi dire qu'au moment où on réfléchit sur le discours de l'art, la modernité, il y a aussi le musée qui vient ajouter un discours de l'art qui serait véritable puisqu'il a une fonction sociale. Mais être moderne, ou moderne tout court, c'est qu'un adjectif. C'est une manière aussi de revêtir un manteau, peut-être des aveugles, comme le disait Brotard, parce qu'il est quand même annoncé dans la Biennale par Emma Lavigne. Donc, évidemment, c'est très compliqué pour moi de savoir. Par contre, alors, moi aussi, je me suis questionnée, évidemment, sur ce terme-là, et moderne, je me suis dit, peut-être que c'est, d'une certaine manière, l'idée qu'il y a un geste moderne. C'est-à-dire, c'est pas une époque, c'est pas une histoire non plus. Voilà, on va essayer de se mettre dans une forme d'anachronisme lié à une période arbitraire de l'art. Mais en même temps, être moderne, si c'est un geste, ça va être aussi un arbitraire. En l'occurrence, la thématique de la commissaire, qui va d'ailleurs planter son clou dès le début du MAC avec des œuvres de Marcel Duchamp. Mais peut-être que effectivement, ces mondes flottants, au pluriel, oui, comme vous l'avez dit, c'est flottant pour essayer de rendre compte aussi d'un engagement de la commissaire Emma Lavigne, qui reprend en citation d'Ara Ziman, je veux dire, le totem de l'art contemporain, c'est-à-dire la fonction autoriale du commissaire, c'est-à-dire laisser libre cours quand même à une certaine fonction de l'association. Pour moi, par ailleurs, même si c'est très formel, il y a beaucoup trop d'associations, c'est-à-dire que la liberté ne relève pas nécessairement de l'association. Ça, c'est une intentionnalité qui me paraît péché par beaucoup de biais. Par contre, l'idée du moderne que je pourrais m'en faire, ça serait un mouvement immobile. Ce mouvement immobile, je ne suis pas sûre d'être dans le même rapport que celui des Malavis, dans les mondes flottants, une recherche très éthérée, très formaliste, très lissée, très blanche, presque on pourrait dire. Il y a une volonté de faire un minimum d'effets spectaculaires qu'on peut pas lui reprocher non plus parce qu'il y a beaucoup de spectaculaires. Mais ça serait aussi quelque chose de, voilà, vouloir, dans cette exposition, vouloir faire un geste immobile. Les mondes flottants, voilà, immobile parce qu'il y a quelque chose qui est contradictoire. Mais il n'est pas assumé parce qu'il est volontaire. Et je crois que si le moderne était un geste, enfin quelque chose d'une immobilité, d'une mobilité à la fois, être immobile et mobile à la fois, je crois qu'à un moment donné, il faut se poser la question de qui trouve ce geste-là, et non pas faire interprétation, parce que monde flottant est déjà une interprétation sur le moderne.
Harry Bellet, à vous de disserter.
J'ai pas tout compris.
Oui, mais ça c'est normal.
Merci. Il faut être résolument moderne. Bon, maintenant.
C'est de vous ça, non ?
Non, c'est pas moi, c'est un copain. Et c'est aujourd'hui assez amusant de voir Raspail parler de ça parce que il est très provocateur en proposant à ces trois commissaires, parce que la dernière biennale, celle de Rugolf avait aussi le même thème, celle-ci et la prochaine auront le même thème. Parce que aujourd'hui, c'est très très méprisé d'être moderne, c'est très méprisé d'être formaliste. Et c'est bien dommage, je trouve, mais bon. Et c'est vrai que ça embête un peu les commissaires, et Malavigne me l'a dit, c'est quand même plancher sur un mot comme celui-là, c'est pas évident.
Le plus important du siècle dernier, au moins.
Du siècle dernier, mais qui, après, il y a eu post-moderne. Ça a été la fin des avant-gardes ou la fin de l'histoire et toutes ces choses. Mmh. Mais je crois qu'aujourd'hui, être moderne, proposer le mot moderne, en tout cas, surtout, j'ai eu l'occasion, vous savez que je voyage énormément, mais je suis pas allé en Antarctique comme vous l'espériez. J'ai vu celle d'Istanbul, qui est concomitante, la Biennale d'Istanbul, qui est faite par deux artistes et dont on parlera pas ici parce que c'est pas le sujet, mais c'est assez intéressant de voir comment une nation, un pays comme la Turquie conçoit l'art contemporain aujourd'hui, même à travers le regard de deux artistes qui sont pas turcs. Emma Laving s'en est sortie justement en prenant cette idée de monde flottant qui est une idée japonaise. C'est l'ukiyo-e, c'est la période de Edo qui voit la première grande période de stabilité au Japon, et en même temps, dans la même période, quelques siècles après, la première ouverture du Japon voulue par les troupes américaines du Commodore Perry. Donc un grand bouleversement après une grande stabilité qui voit monter comme à peu près partout dans le monde à l'époque, qui voit monter la bourgeoisie et donc la création d'images pour elle, sur des sujets qui n'étaient pas du tout des sujets traditionnels japonais, un peu comme au XVIIIe siècle en France, on a vu apparition des portraits qui n'étaient plus des portraits de cour, mais des portraits bourgeois. Elle s'en est très très bien sortie de ce point de vue-là, parce que l'idée de stabilité puis de bouleversement, c'est quelque chose qui, dans la modernité, est fondamental.
Vous opiniez, Corinne Rondeau ?
J'opine, puisque c'est le mot qui ferme le texte de Emma Lavigne dans le catalogue, le modèle, parce que c'est le modèle de son titre, mode flottant, qui relève effectivement de la stampe japonaise, le ukiyo-e. Mais évidemment, vous avez dit le mot, c'est lié à une splendeur du passé. C'est du XVIIe au XIXe, c'est une sorte de bourgeoisie qui récupère un certain type de forme, on va dire, par cette forme de l'estampe et du monde flottant qui a beaucoup, je dirais, de forme elle-même à l'intérieur de cette dimension flottante. Et moi, je trouve qu'effectivement, il y a une volonté quand même, pour revenir quand même sur le parcours de la Biennale, il y a une installation très muséale de l'exposition qui renvoie à une sorte d'apaisement, je dirais, par rapport à la question que s'est posée Florian, qu'est-ce que j'attends d'une biennale, c'est-à-dire peut-être un peu plus de contemporain. Là, on est assis, mais je crois qu'Emma Lavigne, et sans vouloir faire du tout son procès ni la mettre sur un piédestal, c'est qu'il faut se confronter à une demande de Thierry Raspail, et que à côté de la demande de Thierry Raspail, il faut aussi, je dirais, faire une proposition. Et elle nous fait une proposition, et c'est sur cette proposition que moi j'ai envie de parler, même s'il y a ce retour des splendeurs du passé à certains moments dans le MAC, qui est un musée qui n'est pas facile.
Le MAC, c'est le musée d'art contemporain, qui n'est pas facile. Peut-être commencer, si vous le voulez bien, par la Sucrière, puisque si je n'ai pas été à cette Biennale de Lyon, je sais bien qu'il y a deux lieux très forts, importants, qui sont donc la Sucrière et le Musée d'Art Contemporain. La Sucrière, quand même, donne plus de liberté par ses espaces aussi aux commissaires. Enfin, plus de liberté, des contraintes aussi. Mais bon, on ne va pas refaire le sujet sur la liberté et la contrainte. Mais ça donne le ton. J'aimerais bien qu'on on entre dans le concret, en suivant Florian Guettet, pour la peine, pour savoir comment le visiteur est accueilli dans cette biennale. On sort du monde flottant des idées pour être dans le monde concret des œuvres exposées, Florian.
Bien, les mondes flottants, c'est chez Malavigne, je pense aussi, la création d'environnement. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. On l'avait vu encore dans l'exposition sur les jardins à Metz. Donc elle essaie de créer des environnements sensoriels. Donc là, elle veut réinvestir l'affect. Je pense qu'elle le fait, même si elle le fait par la soustraction et pas par l'addition. C'est-à-dire que ce sont beaucoup d'environnements vides et qu'il y a une vraie place faite au vide, au diffus, de sorte qu'il y a une forme d'ouverture voulue des formes et une circulation des formes entre elles. À la Sucrière, c'est là où on a effectivement les installations les plus étonnantes, où on leur laisse le plus de place. Et ça respire beaucoup plus qu'au MAC, pour parler de façon très franche. Il y a toute une quelque chose à mettre au crédit aussi de ce commissariat, c'est la place faite à la poésie et aux arts sonores qui est particulièrement représentée dans cette édition, et c'est vrai que ça crée là aussi notamment à la Sucrière des sortes de parasitages, de collisions entre les matériaux et les formes qui sont pour le coup plutôt porteuses. Bon, après on peut toujours les discuter. La Sucrière, que moi j'ai préféré, j'ai préféré le site de la Sucrière à celui du MAC, on trouve des installations particulièrement fortes, et moi j'ai trouvé vraiment que l'installation de Susanna Fritscher était bien au-dessus du lot. Il s'agit d'hélices soniques, ce qu'on appelle des hélices soniques, ce sont des tubes qui sont montés donc en hélices, motorisées, et qui, à force de leur rythme, de leur accélération, puisqu'elles prennent de la vitesse, diffuse du son naturel fait par la simple résonance de ces tubes-là. Et donc ça s'élève et puis ça retombe, et donc dans une salle elle-même, une sorte de rotonde, une salle ronde. Et c'est particulièrement hypnotique, c'est très formaliste, mais pour le coup, il y a quelque chose de vraiment saisissant. D'autant qu'on a eu la chance de l'avoir avec Corinne dans une performance, activée par une performance d'une violoniste de gambe qui s'appelle Eva Reiter. Et c'était un des moments les plus éblouissants que j'ai eu.
Vous étiez extatique, visiblement. Ouais. Harry, vous l'avez entendu aussi.
Ah oui, alors mais ça, c'est parfois c'est agréable d'avoir de l'émotion dans une expo.
Bah oui, il faudrait que ce soit obligatoire.
Enfin, non, il ne faut pas que ce soit trop fréquent non plus, mais c'est absolument envoûtant. Ces deux femmes ont réussi à créer ensemble. Bon, Susanna Fritscher, on connaît un peu son travail. Eva Reiter, viennoise, je crois, est moins connue des arts plastiques, et pour cause, elle est spécialiste de viol de gambe.
Des instruments les plus déchirants d'émotions qui soient.
Oui, mais alors, le son que produisent les tubes, plus la viol de gambe. Alors, moi, je suis en train d'apprendre doucement, parce qu'on apprend toujours, j'espère, la musique du XVIe siècle. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe quand vous prenez un orgue du XVIe siècle et que vous mettez un gambiste, ou un, je sais pas comment on appelle ça, un viol de gambiste à côté, c'est Marin Marais, c'est absolument extraordinaire. J'ai pas eu de je peux parler un peu de moi. Assis là-dedans pendant une demi-heure, et j'y suis retourné trois fois. C'est pas fréquent, je vous assure.
Bon, on est plutôt au 17e, me semble-t-il, pour
non,
la
non,
pour
non,
la,
on n'est pas du tout au 17e pour l'instrument uniquement,
oui.
Mais non, c'est vraiment l'œuvre incontournable de la Biennale. Voilà, moi de toute façon, c'est, vous savez, hein. Non, c'est certain, parce que tout à l'heure, Florian parlait de déni. Et c'est vrai que c'est une biennale qui ne se confronte pas au réel. Et pourtant, il y a, dans l'installation de Susanna Fritscher et de cette instrumentiste, là, quand on a l'occasion de voir la performance, on a l'occasion de voir là quelque chose qui touche au réel. Parce que quand vous rentrez dans cette salle et que ces tubes qui font 7 mètres de haut se mettent en lévitation à cause de la force du moteur qui est invisible, hein, et qui lève les 9 tubes qui relèvent de l'analogie avec le silo, puisqu'ils sont dans un silo, eh bien en fait vous avez une violence. L'air qui passe, le son qui augmente en fréquence, et donc vous êtes nu face à cette forme mobile. Et c'est ça l'idée aussi que je voulais énoncer dans le moderne, c'est ce mouvement immobile. c'est mobile et c'est immobile à la fois. Et là, vous avez une tension qui est à la fois sensible et aussi intellectuelle, mais aussi purement de conservation. Est-ce qu'il y a un tube qui va lâcher et qui va m'arracher? Parce que d'un coup, votre corps, dans cette biennale, je n'ai pas senti mon corps à un autre moment que dans cette, cette installation. Et quand vous avez là Eva Reiter, qui est d'une beauté mais sublimissime, qui arrive avec sa viole de gamme pendant que les tuyaux volent au-dessus d'elle, elle met son tabouret, elle s'assoit et elle va commencer à taper sur ses cordes, à faire lentement glisser son archet, puis ensuite mettre, elle vient sur l'archet, il y a du papier aluminium et des morceaux de polystyrène blanc, et elle va les lâcher et avec le vent ils vont tourner autour d'elle. Elle va taper, elle va faire des sonorités pour atteindre des fréquences qui sont identiques ou pas à ce son qui est donné par une mécanique. Donc d'un coup, vous avez l'œuvre qui disparaît quand vous n'avez pas la performeuse. Elle disparaît et en même temps, la dimension de la disparition qui est dans la biennale a une consistance qui est votre présence. Et quand il y a la performeuse, là, vous êtes, je dirais, obligatoirement saisi par ce que vous vivez en termes de spectateur. Par ailleurs, donc indépendamment de cette œuvre génialissime de Susanna Frischter, il y a d'autres formes qui sont un peu plus, je dirais, un peu moins, enfin voilà.
Un peu moins. On revient sur ces autres œuvres qui sont un peu moins, une précision d'Harry Bellet.
Oui, Eva Reiter a composé spécialement ce qu'elle joue pour l'œuvre et c'est assez... C'est assez étonnant, je veux dire, cette collaboration entre deux artistes qui se sont rencontrés par hasard.
Mais est-ce qu'elle va rejouer certaines dates de la Biennale ou c'était juste pour vous,
vraiment, non,
privilégiés?
C'est que pour moi.
Vous, c'est un vous collectif.
Autres, hein. Non, c'est que pour moi. Je suis désolé que les autres l'aient entendu. J'ai l'impression d'avoir été volé.
On va chercher des informations. Peut-être un calendrier, elle va peut-être revenir quand
non,
même.
Non, je ne crois pas.
C'est extrêmement dommage.
Oui, mais non, pas tant que ça. Parce que j'ai entendu l'œuvre de Frischter, j'ai entendu toute seule.
C'est très bien aussi.
C'est pas mal non plus.
On n'en doute pas, mais ce que vous racontez là donne envie.
Oui, mais c'est toute seule, c'est autre chose. On a l'impression d'être dans au Tibet, à écouter des moines tibétains souffler dans leur trompe, et ça aussi.
Il n'y a pas le TGV pour aller au Tibet pour l'instant. De toute façon, ça prendrait un peu plus de temps. D'autres œuvres que vous auriez retenues dans la sucrière et peut-être l'impression générale de cet immense lieu à Ribélé? Qui se reprend dans ses notes, du coup.
Eh ben oui, parce que juste à côté, elle est installée, Susanna Frischter, dans un silo, et donc en plus, cette rotondité rajoute à la chose. Et juste à côté, il y a Dougate Kane. Qui lui fait aussi du son, mais avec de l'eau, puisque nous sommes dans les mondes flottants, là c'est les mondes fuitants. De l'eau qui tombe du plafond dans un bassin. Le bassin est un peu laiteux. Il y a aussi, là, je dois saluer les régisseurs et toutes les gens qui font les montages pendant cette biennale, qui sont des gens d'une compétence extrême. Ils sont capables de vous faire n'importe quoi. Là, ils vous ont fait une sorte de cratère dans le béton et pour mettre de l'eau dedans. Et lorsque la goutte tombe, ça fait réagir des micros qui sont dans l'eau. Et je rends hommage aux gens qui nous enregistrent ici, qui doivent comprendre à quel point c'est compliqué de mettre un micro dans de l'eau. Ça enregistre le bruit de la goutte et comme les tombées de gouttes sont aléatoires, ça fait des c'est assez spectaculaire aussi. On a l'impression d'être dans Alaska, dans une grotte quoi.
Très bien. Corinne Rondeau, il y avait des œuvres un peu moins dans la sucrière, mais parmi les plus dans les moins, vous donneriez quel conseil, quelque chose à ne pas rater dans cette sucrière avant qu'on tourne une page pour aller vers le MAC?
Écoutez, je pourrais pas trop vous dire, parce que comme l'a dit Florian, c'est vrai que c'est une exposition faite d'environnement. Et cet environnement, il a des creux et des pleins. Il a des moments de tension, il a des moments où... On est, c'est pour moi, je dirais, j'ai deux adjectifs aussi pour la biennale, c'est rond, rotondité, rond et spectral. C'est-à-dire que par exemple, le deuxième étage, parce que au rez-de-chaussée, nous avons, on en reparlera peut-être, parce que moi, je fais un pendant entre Bruce Conner, vous savez, le film qu'il a fait de fond de footage en récupérant des films de l'armée sur la la bombe atomique. Et on rentre avec cette vidéo qui est dans une salle obscure. Et puis ensuite, vous avez du Robert Breer avec des sculptures qui bougent lentement. Vous avez un drapé de Hans Mack qui fait bouger avec de l'air. Vous avez un amas de destruction d'une ancienne industrie qui était à Lyon notamment, de Lara à Marseille. Et donc vous avez une sorte de manière de vous dire, voilà, il y a du vide et du plein, il y a quelque chose qui est détruit, parce que l'exposition joue sur ces formes qui sont là et qui ne sont pas là, ces formes qui sont entre la dissémination, la dispersion et la destruction, voire la disparition. Et au deuxième étage, il y a quand même un bel environnement, je trouve, entre Philip Ken, avec un espace voilà, dont il s'était servi pour une mise en scène. Enfin, bon, vous avez une sorte d'espace comme une grotte, et puis Welcome to Cleveland, vous avez...
Cleveland. Cleveland, c'est la ville, oui, et Caveland, c'est là où vivent les taupes,
vous savez,
cher à Philip Ken.
Vous savez que je...
Non, mais Cleveland, c'est une ville.
Je sais, il y a même eu un film. Voilà. Et vous avez cette terre qui va gonfler et dégonfler, et puis un spot à l'intérieur, donc ça crée des zones comme ça. Et à côté de ça, vous avez Veracetacool, Apichatpong,
Veracetacool,
où Joe. En fait vous avez un écran qui est très spectral, avec une sorte, voilà, quelque chose d'un film qui est projeté, et à côté une image de son compagnon qui est pris dans un flot de nuées, de vapeur ou de fumée, on ne sait pas trop. Et puis au loin, je ne sais pas d'où ça vient, il y a un écran blanc, une projection blanche au mur. Et tout est comme ça, et en même temps, on est aussi accompagné par des photographies de Peter Moore, de toute la performance des années 60, avec Rauschenberg, etc. Et donc, on a vraiment le corps comme un spectre, tout le long de l'exposition.
Mais ce que vous dites là, ce que vous décrivez, moi, ça me donne très envie. Hein,
non, mais peut-être,
moi... Lyon, vous... mais enfin, façon dont vous en parlez me fait très envie, Corinne
Rondeau. Tant mieux, je veux dire. Moi,
Alors que vous êtes plutôt mitigé.
Je suis mitigé parce que, à cause de la remarque qu'a faite Florian et que je partage complètement, c'est que je crois qu'à vouloir nous faire un monde flottant bien lisse, faut pas oublier le retour du refoulé, parce que quand il sort, c'est la violence. Et ça, c'est évidemment aussi un élément fort de la pensée de Emma Lavigne, qui dit je veux renoncer d'une certaine manière à la violence. Il y a eu trop de violence. Elle a eu cette proposition juste avant les attentats de 2015, et ça a beaucoup compté pour elle pour cette exposition.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Nous allons poursuivre cette exploration de la Biennale de Lyon. Alors, il y a évidemment très peu de gens qui l'ont vu à Issa Tundoy. J'imagine que les tweets ne se bousculent pas. Si j'ai vu quelqu'un qui pose une question sur Corinne Rondeau et l'autre qui la défendait, ne touche pas à mon idole, c'est bien ce que j'ai lu, par-dessus votre épaule, et c'est tout. Mais on va effectivement poursuivre cette dispute tout entière consacrée au monde flottant, donc au pluriel, 14e Biennale d'art contemporain de Lyon. Tiens, à cette mi-temps d'émission, je vais faire une petite annonce, puisque France Culture est partenaire de cette Biennale, et que vendredi 22 septembre, après-demain, il y aura beaucoup d'émissions de France Culture en direct. Et en public à la Sucrière, 12h-13h30, c'est la grande table d'Olivia Gesbert. Elle recevra tout d'abord Philippe Découfflé, puis dans la seconde partie Emma Lavigne, Thierry Raspail et Dominique Blais. Donc là, j'imagine qu'Olivia est en train de nous écouter et de prendre quelques notes sur les questions à poser, notamment à la commissaire de cette exposition. À 13h45, une masterclass, vous savez, cette grande collection pour France Culture. C'est Christian Sciaretti qui répondra aux questions d'Aude Lavigne pour cette masterclass. Ensuite, la méthode scientifique de Nicolas Martin, quand l'art dialogue avec la science, de 16h à 17h en direct. Une autre masterclass enregistrée à Lyon, à 17h15, c'est Mélik Ohanian qui répondra aux questions de Manu Farine. Voilà pour cette journée de France Culture à la Biennale de Lyon. Ce sera en direct parfois, en public toujours, à la Sucrière. L'entrée, bien sûr, est libre pour ces émissions. J'aimerais qu'on sorte de la Sucrière, peut-être, même si je ne vous ai pas laissé beaucoup parler, Florian, sur ce lieu-là. Mais est-ce qu'on
peut
aller...
juste rajouter, parce que Corinne a fait quand même un beau panorama de la sélection, mais juste au troisième étage, qui est moi celui que j'ai trouvé le plus inégal, quand même, l'installation de Mélik Ohanian.
Justement.
Oui, ce qui reprend en fait une sorte de huis clos sur un toit flottant new-yorkais. Donc c'est des projections en noir et blanc à taille humaine en quadriphasé, donc en quatre écrans, et donc on est immergé là-dedans. Voilà, que j'ai trouvé notable, sinon remarquable.
Un peu de Laurie Anderson ne fait jamais de mal. C'est pourquoi on entend le Violin Walk de la grande musicienne américaine qui fait partie de cette liste des artistes présentés dans cette 14e Biennale d'art contemporain de Lyon. Dirigeons-nous vers le MAC, Musée d'art contemporain de Lyon. Je n'ai pas encore dit que la Biennale durait jusqu'au 7 janvier 2018, ce qui laisse le temps évidemment à nos auditrices et auditeurs de passer par Lyon s'ils le peuvent. Harry Bellet, on vous suit à l'intérieur du MAC.
Ah oui,
quelle est la tonalité du MAC ?
Mais vous savez, moi, je suis un vieux formaliste. Alors, j'étais très content de voir ça.
De voir quoi ?
De voir des œuvres qui se répondaient, qui se parlaient. Bon, le premier état. Alors déjà,
je voudrais déjà.
L'entrée. Je voudrais juste nuancer un peu le propos de Florian, qui est tout à fait juste. Mais c'est vrai que c'est pas une biennale très politique. Toutefois, l'entrée, c'est la tour de Babel qu'avait construit Silvio Meirelles quand il avait été obligé de quitter le Brésil sous la dictature et qui s'est installé à New York. Il est arrivé sur les boutiques de Canal Street et il a vu toutes ces radios qui diffusaient chacun des canaux différents, alors que dans son pays la radio diffusait que le canal du pouvoir, et donc il a fait une sorte de tour avec les radios qu'il a pu trouver sur
Canal Street. Encore un hommage à la radio,
oui,
décidément.
Mais qui est pas inintéressant non plus d'un point de vue philosophique, parce que autant dans son pays, il y avait une seule voix, autant quand on empile 500 radios les unes sur les autres, chacun branché sur un canal différent, ça devient cacophonique.
On n'entend plus rien.
On n'entend plus rien, ce qui n'est pas beaucoup mieux. C'est vrai que c'est une des rares œuvres réellement politiques, avec peut-être celle d'une Mexicaine sur laquelle je reviendrai peut-être. Mais moi, ce que j'ai vraiment... J'ai des goûts, vous savez, classiques, traditionnels, voire réactionnaires, et je les revendique, mais quand j'ai vu la salle où Ernesto Neto a demandé, visiblement, parce que Harpe, lui, n'y est pour rien, Harpe, c'est le plus vieil artiste de l'exposition, il est né en 1886, un des plus jeunes est né en 1986, donc on a à peu près un siècle d'histoire de l'art, et c'est pas mauvais parfois de rappeler que les contemporains peuvent dialoguer avec leurs anciens, et que parfois même ce sont les artistes contemporains qui permettent à nous, historiens d'art, de redécouvrir les anciens. Si on ne regarderait pas les nymphéas, si les peintres abstraits américains des années 1950 les avaient pas regardés avant nous. On les vendait pas dans les années 50, ça valait pas un rond.
Ouais,
Personne s'en intéressait. Les nymphéas n'intéressaient personne jusqu'à ce que les Américains, les peintres américains, commencent à travailler l'abstraction lyrique. La salle où Neto a demandé à Emma Laving d'être avec Hans Harpe, Jean Harpe, c'est selon les points de vue, parce qu'il dit « je commence mon travail là où Harpe l'a interrompu », et puis Calder, c'est peut-être un des plus beaux accrochages que j'ai vu de très longtemps. C'est accrochage d'installation, ce qui est pas, c'est quand même pas facile de faire vivre tout ça ensemble. C'est autant je dois l'avouer, le travail que Neto avait montré à la Biennale de Venise m'a laissé un peu dubitatif, pour ne pas dire plus ou moins. Là, c'est aussi un espace, c'est un peu comme le Susanna Fritscher, un ensemble. Et ni Harpe ni Calder ne sont là pour se défendre et dire que c'est très mauvais. Moi, je trouve ça merveilleux. Et puis, c'est un bel hommage d'un Brésilien à un franco-allemand très ancien, et puis à un homme qui aimait bien aussi les mondes flottants. Je pense à Calder.
Corinne Rondeau, Au Mac, pas le même goût pour ce formalisme dont non. parle Harry Belay, ou en tout cas cette, ce que j'ai entendu, tout ce que vous disiez tout à l'heure, cette façon d'être, de contraindre un peu le regardeur à associer de façon un peu trop soulignée.
Il faut reconnaître à Emma Lavigne qu'effectivement, elle est dans un dialogue avec les formes qui sont présentées. Et elle a, comme l'a dit effectivement Florian, beaucoup d'œuvres qui libèrent du son, ce qui n'est pas vraiment beaucoup le cas dans beaucoup d'expositions.
C'est vrai, ça c'est remarquable. Et
donc ça, on peut retrouver là, je veux dire, ses intérêts pour les années 60, 70, la performance, la danse, etc. Donc c'est vrai que, voilà, on a, je dirais, ce dialogue revendiqué, formellement. En même temps, on voit qu'elle a pris une décision à l'égard du moderne. Elle a mis du chant à l'entrée, c'est son clou. Paf, la grande salle, la première salle, vraiment, vraiment sale. On arrive et on voit du chant avec les boîtes vertes, la boîte blanche, la boîte en valise. Donc on a là quelque chose qui monte. Le clou, c'est parce que vous avez la boîte qui est ouverte, avec tout ce qui est ouvert comme reproduction de son propre travail à du chant. Donc on a l'éclatement qui est déjà indiqué, et puis par ailleurs on a la boîte blanche avec tous les morceaux décrits, toutes les pages écrites qui est liée au goût de la poésie, pas pour Emma Lavigne. Donc déjà dans cette salle, il y a du chant, genre arbitraire, la modernité commence avec lui, boum. De l'autre, la dispersion et l'éclatement, c'est formellement visible. L'anachronisme aussi, parce que Duchamp est à peu près incontournable comme inclassable, même un peu encore aujourd'hui, mais il a été beaucoup à son époque. On a du mal à imaginer qu'il ait pu faire ça à son époque, puisque tout le monde l'a copié à peu près depuis 80 ans. Et on a une artiste à côté de lui, donc j'ai encore évidemment oublié le nom, alors que je me suis fait une liste pour pas oublier les noms propres.
Mais il faut retrouver la liste.
Yoko Mori, voilà, qui reprend en fait le grand verre, mais avec d'autres objets. Il y a un trajet d'eau qui fuit. Voilà, vous avez deux panneaux, vous avez trois morceaux comme le grand verre. Vous voyez, c'est une partie verticale avec deux zones, l'une au-dessus de l'autre, et puis à l'intérieur de la salle, mais des objets, et puis il y a une circulation d'eau. Et puis à côté, vous avez une grande salle de Tudor, le grand compositeur qui a travaillé avec John Cage, par exemple, où vous avez des objets suspendus, tout est en l'air. Donc c'est une très belle salle avec des sons, je veux dire, voilà, des sons étranges qui sortent de tous ces objets. Donc d'un coup, c'est des sonorités, chercher à l'affect, chercher la sensibilité, et en même temps faire, voilà, le début du siècle dernier, en même temps le milieu du siècle dernier et aujourd'hui. Donc on est là dans une sorte de famille affective, on va dire, pour Emma Lavigne. Et à l'intérieur de ça, évidemment, il y a un parcours premier étage qui est plutôt sonorité et aussi disparition qui est en jeu. Vous avez fait passer Laurie Anderson, elle propose une œuvre où il y a du vent qui passe dans une boîte où il y a un livre et donc on ne peut pas lire les pages. Et à côté, vous avez Brotars avec sa vidéo ultra connue qui est la pluie. Vous savez, il essaie d'écrire un texte, puis il tombe de l'eau, rien ne s'écrit. Donc on a une volonté de faire disparaître des choses comme ça. Alors, c'est plus ou moins réussi en fonction de certaines pièces. Et puis, plus on va vers le haut. Alors moi, Netto, j'en ai ras-le-bol, je le dis direct. Alors Harpe, évidemment, Harpe, il disait « Je suis née dans un nuage ». Alors ça va bien avec l'expo, les ciels, parce qu'on a le champignon atomique, on a Diana Tatter, quand même à la sucrière, j'y retourne avec un gros nuage. Donc en fait, ces nuages à côté du gros béton détruit, donc tout ça est mauvais, c'est mauvais, mais tout ça est très doux. Hein, voilà. Donc Netto, je reviens au Mac, j'en peux plus. Je veux arrêter ça, arrêtez-moi ça, je peux plus supporter ça, parce que cette dimension de retrouver du corps, moi je veux bien le retrouver le corps, mais avec mon corps, pas avec des pseudo-formes biomorphiques ou je sais pas quoi, parce que la salle est gigantesque, et à côté de ça, pour rappeler quand même le corps, on a du Fontana qui va trouer ces trucs. Bon, moi si vous voulez, le deuxième étage, il me fatigue, même si Ligia Pape, c'est toujours génial, c'est fait avec rien, et c'est toujours... pas rien non plus, mais en même temps, Ligia Pape, c'est comme vouloir justifier de Netto pour moi, enfin de mon point de vue, parce que je ne pense pas que ce soit dans la tête de ni de Raspail ni de
Malavigne.
Même si ce sont, il y a de très belles formes, enfin il y a de très belles œuvres, hein, je veux dire, c'est pas la question, mais c'est tellement lissé qu'on dirait que c'est une exposition de musée qui est là, c'est pas une biennale. Et donc après, il y a le troisième étage.
Et vous filez le mistigré à Florian Guettet, qui le reprend en vol. Mais oui, pour avancer. Oui,
je reprends en même temps ce Mac. Il est intéressant parce que peut-être par rapport à la thématique, c'est celui qui scolairement presque essaye de traiter le plus cette thématique des mondes flottants, en tout cas de le replacer dans une histoire de la modernité. Thierry Raspail, dans le catalogue, lui fait remonter Mondes flottants à une série de 8 tableaux de Fontana qui s'appelle Ambiente Spaziale, désolé pour l'accent.
Magnifique accent.
qui est donc une peinture tétradimensionnelle, émancipée de la planéité et de la fixité et du cadre. Bon, pourquoi pas. Donc, moi, il me semble que un des enjeux de cette proposition, c'est de dire finalement, dans la première partie du XXe siècle, on avait déjà une sorte d'intuition esthétique de ce qu'allait devenir le monde dans la seconde. Et effectivement, dans la seconde, on peut parler de flux, et puis là, on a Armut Rosa, vous l'avez cité tout à l'heure, mais il y a aussi Zygmunt Bauman, évidemment, là, la vie est liquide, il n'y a que des flux d'argent, de biens, de capitaux,
etc. L'accélération.
Eh bien, cette idée pertinente de la biennale, moi j'aurais bien aimé la voir aller jusqu'au bout et effectivement dire, après tout, on peut penser des flux dominants, le mainstream véritablement, et à côté, l'art serait ou pourrait être une sorte d'asile pour des choses plus diffuses, des sortes de flux, des asiles critiques ou pas, mais enfin en tout cas quelque chose qui aurait de la consistance. Et c'était déjà l'intuition du formalisme des modernes, c'était pas un formalisme plat. Et là, force est de constater que quand ça marche sur du Duchamp, effectivement, on est content d'avoir ce propos. Et puis sur Netto, moi aussi je partage assez l'avis de Corinne. Et pourtant j'étais un grand fan de Rondo.
De Rondo,
vous avez
toujours.
Vu le lapsus.
De Netto.
Vous avez vu ça. Donc
c'est le haut.
C'est le haut. C'est la rondeur aussi.
Merci. Non. Je ne suis pas grosse.
De Netto. Rondo.
La rondeur Netto. Des œuvres de Netto. Non, mais quand il était intervenu au Panthéon, notamment, je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait quelque chose de très inclusif dans ces sculptures biomorphiques. Et là, j'ai trouvé d'une part que formellement, c'était assez faible, assez pauvre par rapport au principe qu'il met en action, en œuvre depuis des années. Mais effectivement, les œuvres qui dialoguent très bien, Harpe, Netto, ça dialogue, on ne peut pas dire le contraire, mais qu'elles sont rejetées sur le côté. Du coup, elles sont un petit peu exclues de cet environnement-là. Le Fontana, et puis il n'y a pas que Fontana, il y a Dadaï Meno, Chegui, Bourou, qui là aussi deviennent presque avalés, enfin complètement diminués en fait par cet environnement-là. Donc moi, il m'a pas plus emballé que ça. D'autant qu'il y a une sorte de d'escalier, oui, toujours pas compris à quoi il sert. Il y a un escalier
qui monte,
Harry Bellé va vous répondre.
Et donc on voit une
constellation. Il sert à quoi l'escalier, Harry?
C'est pour monter dessus.
Oui, bien sûr. Bien. Non, mais il génère des attentes.
On passe un trou dans le Netto et on voit un harpe.
Voilà. Ah. Et ça génère une attente. Très, petit théâtre de marionnettes. Moi, ça m'a pas plus emballé que ça. Donc ensuite, effectivement, on arrive au troisième étage, qui est beaucoup plus intéressant, où on trouve beaucoup une présence du noir, de l'anti-gravitationnel. Donc là, on est sur une autre forme de flottement. Et je retiendrai, alors peut-être cette petite salle de Fontana que je trouve très bien dans l'intention, mais très décevante dans l'expérience, puisque on est dans les années 60 et il utilise déjà de la peinture phosphorescente pour organiser une sorte de parcours pointé que j'ai pas trouvé pertinent. En revanche, c'est mis en dialogue avec une œuvre de Serit Wien Evans qui est
j'arrive jamais à le dire non plus,
Apparition, hein. Voilà, qui est fait avec Strobing Gristle.
Gristle, ça je connais.
Voilà, la musique expérimentale des années 70 et ça fonctionne plutôt bien, même si là on aurait voulu peut-être plus de vide et que il y a beaucoup de vide de partout et que là on s'est demandé pourquoi il y en avait pas autant.
Alors, si Harry Bellé-Daigne se rapprochait de son micro, il pourrait nous parler de ce troisième étage ou d'un autre étage de la MAC avant de passer à quelques suppléments dans un instant. Harry Bellé, à part Ernesto Netto, vous n'avez rien vu d'autre. Hein,
quasiment, parce que non, effectivement, c'est tellement spectaculaire que, enfin, de mon point de vue, encore une fois, j'aime bien les choses qui sont accrochées proprement. Et puis les artistes qui dialoguent à travers les âges, vous savez, ça me passionne parce que je pense que quand on parle d'art contemporain, on oublie parfois que les artistes contemporains sont plus souvent contemporains de Tintoret, d'artistes du passé que de leurs voisins de palier. Donc moi, je suis très sensible à ça. Maintenant, le Fontana, c'est aussi dans Paris Florian, c'est aussi un hommage que Raspail, si je peux dire, se à lui-même. C'est une des toutes premières œuvres que le musée a achetées lors de sa création, le musée de Lyon, et à une époque où Fontana était encore accessible, parce qu'il n'intéressait encore une fois personne. Je ne vais pas revenir sur mes nymphéas. Et nous savons tous que nous sommes en phase d'austérité. Le fait de pouvoir disposer...
Première nouvelle.
Bon, enfin, chez nous, ça va, mais chez vous, je croyais qu'on faisait des économies. Et donc, le fait de pouvoir utiliser l'histoire de son propre musée et celle du Centre Pompidou, qui a énormément prêté dans le cadre de son 40e anniversaire, bah, ça permet de faire des économies aussi.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Bon, quelques petits conseils supplémentaires ou quelques petites autres visions, parce que je vous ai demandé de parler beaucoup de ces deux grands lieux, mais la Biennale d'art contemporain de Lyon, elle est éclatée sur une quantité de lieux. Il y a différents programmes, sous-programmes, Vedutta, d'autres encore. Une demande spécifique, Issaïe Toundoï ?
Oui, Darmel LM qui aurait aimé vous entendre évoquer l'exposition de Liu Fan au couvent de la Tourette.
Alors, qui se lance ? Arrivez-les.
Bah, Liu Fan, c'est toujours... j'allais dire, c'est au moins aussi zen que l'œuvre de Susanna Fritscher, mais c'est pas avec les mêmes moyens. Il intervient dans un endroit qui est assez particulier. Le couvent de la Tourette, c'est construit par Le Corbusier. Ça abrite toujours des moines dominicains, dont les prieurs de plusieurs générations s'intéressent forcément à l'art contemporain. Il y a eu longtemps un Nicolas de Staël dans le couvent des moines dominicains, dans l'affectoire du couvent Saint-Jacques à Paris. Mais c'est aussi une architecture extrêmement brutale, faite par un monsieur qui n'avait pas forcément le respect des gens qui habitaient dans ces immeubles. Et Liu Fan a voulu se confronter à ça. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est assez joli parce qu'il a travaillé en fonction du lieu sur des salles qui veut faire rappeler les salles de cérémonie du thé qui sont traditionnelles au Japon où il vit, enfin en partie. Et il y a une grande fragilité dans son travail qui contraste, mais absolument, avec la dureté du lieu.
Alors pour parler d'autres lieux, les internautes, surtout ceux qui sont abonnés à Twitter, ont vu des photos de Florent Guettet à l'IAC de Villeurbanne, l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne. Qu'est-ce qu'on peut y voir en dehors de vous et de ce pull qui fera date dans l'histoire de la mode du 21e siècle?
Ben moi c'est une bonne surprise l'IAC, alors c'est inégal mais vraiment de belles propositions. Alors le propos, donc ça s'inscrit dans le programme Rendez-vous 2017 avec un focus sur la jeune création nationale et internationale. Cette exposition, l'IAC a réuni soit des étudiants qui sont sortis des écoles de la région lyonnaise, soit des jeunes artistes sélectionnés par des commissaires qui viennent de biennales internationales. Et là-dedans, alors on voit de très belles choses. Moi, j'aimerais citer quand même le travail de Thomas Turley, qui est en fait la première installation dans laquelle on rentre, qui est une sorte de chambre plongée dans le noir, un peu dans une sorte d'esthétique, de rêve parti qui aurait mal tourné, post-catastrophique, mais on voit une platine de vinyle sous la douche ou un matelas complètement destroy, hein, là c'est le cas de le dire, une sorte d'univers un peu épileptique qui moi m'a beaucoup parlé. Donc juste après on sort justement sur ces peintures dont vous parliez tout à l'heure, ces grandes fleurs donc qui là pour le coup m'ont absorbé puisque j'ai l'art de bien choisir mes pulls.
Ah, c'est Laure Marie Cuenias.
Tout à fait. J'ai beaucoup aimé le triptyque vidéo d'Hicham Berada qui s'appelle Les Fleurs, qui est voilà une sorte de déformation d'éléments ferrofluides, c'est-à-dire de qui contient du métal sous forme liquide et qui réagissent en fait de forme chimique en composant des formes biographiques qui ressemblent à, pourquoi pas, à des fleurs ou à des fractales. J'ai aussi eu l'occasion de voir le travail de un duo de filles, Amélie Giacomini et Laura Céliès, qui sont associée à la chorégraphe Anna Gaiotti, dans une performance très très juste, très bien posée, pensée, autour d'une sculpture où on voit un tressage de fils de cuivre, et la performeuse émet des sons qui dialoguent et qui rentrent en résonance, là pour le coup matérielle, avec cette sculpture-là. Voilà, je rajouterai peut-être les broderies de Kadi Mali, qui est un jeune artiste iranien, qui m'ont semblé particulièrement bien réalisé. Et puis des vidéos très sobres aussi sur les salles de danse de Ao Jingban.
Voilà, pour quelques conseils, c'était l'IAC. Corinne Rondeau, est-ce qu'il y a un autre lieu, une autre exposition, ou peut-être celle dont vient de parler soit Florian Guettet, soit Harry Bellet, à conseiller, parce que vous avez eu deux journées, je crois, très intensives. Vous avez parcouru beaucoup d'espace.
Bah, c'est vrai que l'IAC fait du bien quand on a fait la Biennale. Ça, c'est certain, parce que d'un coup, on a... Vous savez, la question de la Biennale, quand elle est thématique, c'est penser à une interprétation de toutes les œuvres entre elles. Alors que faire une exposition avec des œuvres qui n'ont pas de lien entre elles, bien qu'elles elles puissent se ressembler, mais c'est ça l'inquiétude pour moi et le danger du travail et de l'analogie pour le spectateur et des associations, c'est qu'à un moment donné, on force un petit peu le trait. Par contre, quand vous avez des œuvres qui n'ont rien à voir entre elles, même si elles se ressemblent, et que vous jouez la carte de l'écart, c'est-à-dire laisser la place au spectateur et en même temps faire le vrai travail du commissaire et de ce que ça peut être de l'art, c'est-à-dire contemporain, on ne sait pas où ça va, mais il faut le faire vivre entre, je trouve que l'IAC, c'est le bon pendant de la Biennale, parce que je trouve que déjà, c'est un bon rythme, notamment avec Thomas Turley, je trouve que c'est d'un coup, on arrive au noir, paf, on a du flash, on a quelque chose qui vient frapper la rétine et effectivement les épileptiques devraient la traverser très très vite. Et puis d'un coup, le choix brutal de Laure Marie Cuenas avec ses fleurs qu'on peut revoir dans une autre salle. Alors moi, je l'ai trouvé absolument, je n'achèterai pas ça, hein. D'ailleurs, je n'achète pas d'œuvres, donc il n'y a pas de problème. Mais je trouve que dans sa salle où elle fait, elle a un côté Douanier Rousseau, mais en fait pas du tout. Et donc, j'ai cru que c'était une artiste. Chinoise, enfin asiatique, du moins pour les motifs.
Mais c'est du all-over, enfin c'est vraiment...
Non, c'est... Ah oui, la photo de...
De Florian Guettet.
De Florian, c'est un... Oui, c'est tout le mur. Mais après, vous avez une salle où il y a des tableaux.
D'accord.
Où il y a des... Et elle tire de certains motifs de la littérature. Voilà, alors vous avez des poissons volants, vous avez une panthère. Je ne vous ai pas envoyé la photo de
Mais
Florian
d'autres
avec
l'ont prise. Hein,
ah bon, d'accord.
Vous n'avez pas été la seule à le photographier.
Oui, mais ça, vous savez, ça a été un grand succès, hein, IAC, que nous sommes passés. Mais j'ai trouvé que la fille assumait complètement sa peinture, même si, quoi faire. Et j'ai trouvé que là, il n'y avait pas de jugement à porter. C'était là, bingo, et ça marchait. Et c'est vrai que la performance de cette salle à toutes les filles couronnées, je crois que c'est le titre de l'installation qu'on a vu avec la performance, moi j'ai trouvé que d'un coup, ce corps qui réapparaissait, parce que ça m'a trop manqué à la Biennale, parce que j'ai pas assez eu d'inconfort à la Biennale, pas du tout assez d'inconfort, j'ai besoin d'inconfort, j'ai besoin que l'art ça me mette pas à l'abri, et j'étais trop à l'abri à la Biennale, et là, cette fille qui vient à sa performance, torse nu, qui pousse des sons, qui chante pas, elle pousse des sons dont on ne sait pas si ça, au bout d'un moment, on ne sait pas si ça vient de son corps, qui a un effet avec ce tressage de fil de cuivre dans la résine. Moi, je suis pas vraiment très portée sur la performance, mais je dois dire qu'entre Susanna Fischer et ce couple d'artistes là à l'IAC, j'ai eu quand même mon poids d'émotion. J'étais très heureuse de le voir, même si le côté un peu féministe m'est passé un peu au-dessus, parce que j'aime pas les dimensions trop militantes justement. Mais je trouvais que mettre du corps là où ça manquait, ça m'a réconciliée avec tous mes deux jours.
Une précision, Florian Guettet ?
Non, c'était pour redire juste les noms, Amélie Giacomini et Laura Céliès.
Vous faites bien de le redire. Harry Bellet, le dernier conseil ?
Eh bien, si après tant d'émotions, on a besoin d'un peu de repos, il ne faut pas rater l'installation de Céleste Boursier-Mougenot, qu'on connaît par cœur, parce que c'est probablement une des premières œuvres qu'on ait vues de lui, mais qui s'améliore, parce qu'il la modifie à chaque fois.
Description, un bassin.
C'est un bassin avec de l'eau dedans, encore de l'eau.
Ça flotte.
Flottant. Là, ce sont des tasses de porcelaine qui flottent. Il y a des petits aspirateurs, ou je ne sais pas ce qu'on met dans les piscines pour que l'eau bouge. Ça fait du courant. Et les petites tasses de porcelaine viennent s'entrechoquer. Et ça fait des sons très, très,
des appels très qui vous ont apaisé.
Tout ça sous un dôme de Buckminster Fuller, que tout le monde connaît quand on a mon âge et qu'on a été hippie.
J'essaie de calculer combien ça fait de personnes, mais je vous donnerai le résultat.
Mais dont on oublie parfois qu'il a été conçu pour l'armée américaine.
Et le dernier mot, c'est Florian Guettet qui le demande et qui l'a donc.
Oui, non, au moins pour le dôme, allez voir cette pièce-là, peut-être plus que pour l'installation de Boursier-Mougenot. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi je trouve qu'elle est assez symptomatique de ce qu'a voulu faire aussi Emma Lavigne, qui dit finalement la contemplation, c'est une forme d'émancipation. Donc là, on est dans une pièce complètement méditative, auquel moi je suis un peu plus hermétique, parce que j'attends moins ça. Mais en tout cas, elle nous plonge dans une forme d'attention flottante, et peut-être que là est le monde flottant, et faire juste attention que la tension flottante, ça mène aussi à la déréalisation.
Bon, espérons qu'il n'y aurait pas eu trop d'écoute flottante pendant cette émission de La Dispute qui était consacrée aujourd'hui à cette 14e Biennale d'Art Contemporain de Lyon, visible jusqu'au 7 janvier. Enfin, les écoutes flottantes, c'est bien aussi parce qu'on en retient parfois les choses qui nous semblent les plus importantes. Rappelez encore que vendredi, après-demain, le 22 septembre, plusieurs émissions de France Culture auront lieu en public et certainement en direct à la Sucrière, en direct et en public, 12h, 13h30, la grande table d'Olivia Gesbert. On y entendra notamment la commissaire de cette biennale, Emma Lavigne. Une masterclass avec le patron de TNP, Christian Schiaretti, c'est à 13h45, menée par Aude Lavigne. En direct, Nicolas Martin et la méthode scientifique à 16h. Deuxième masterclass à 17h15 avec Mélik Ohanian, masterclass conduite par Manu Farine. Et avant de conclure l'émission, le jeu de la dispute, d'abord un rappel du jeu d'hier au soir avec la question que Grégoire Di Fiore nous rappelle.
Quel écrivain colombien a grandi dans la ville d'Aracataca?
Et la réponse est...
Gabriel Garcia Marquez.
Ce soir, on fait gagner des places de cinéma pour le film Gauguin, Voyage de Tahiti d'Edouard Deluc qui est sorti aujourd'hui dans les salles. Quelle est la question?
Quel poète aida Gauguin à financer son voyage à Tahiti en 1891?
Votre réponse avec vos coordonnées postales sont à envoyer par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez réécouter cette émission et également vous abonner au podcast de la dispute. Préparez vos commentaires pour demain, il s'agira de littérature, commentaires à poster sur Facebook, la dispute FC dès maintenant ou demain en direct sur le fil Twitter de l'émission. Demain à 19h donc dispute littéraire avec Elisabeth Franck-Dumas, Grégoire Leménager, Étienne de Montetti à notre sommaire Comment vivre en héros de Fabrice Imbert, Les vacances de Julie Wolkenstein et La haine de la poésie de Ben Lerner.